VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise en Gambie. Le Conseil de sécurité de l'ONU va voter ce jeudi sur un projet de résolution en faveur d'une intervention militaire de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, en Gambie, pour assurer la passation de pouvoir dans ce pays où la victoire de l'opposant Adama Barrow aux récentes présidentielles est contestée par le chef de l'État sortant, Yahya Jammeh. La CDAO a demandé à maintes reprises à Yahya Jammeh de respecter le résultat de l'élection du 1er décembre en quittant le poste qu'il occupe depuis 22 ans. Mais ce dernier refuse d'obtempérer. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a donné son accord pour un éventuel déploiement de 205 militaires en Gambie dans le cadre d'un mandat régional ouest-africain en appui du Nigeria et du Sénégal pour imposer le président élu gambien Adama Barrow face à Yahya Jammeh. Décision annoncée hier soir par le porte-parole de la présidence ghanéenne Eugène Harin. Par ailleurs, le mandat de Yahya Jammeh ayant maintenant pris fin, Adama Barrow prêtera serment en tant que nouveau président gambien ce jeudi après-midi à l'ambassade de Gambie à Dakar au Sénégal, a déclaré à Banjul Alifa Sala, porte-parole de M. Barrow. La cérémonie est prévue à 16h, heure locale et temps universel. Adama Barrow est depuis le 15 janvier au Sénégal, voisin, dans l'attente de son accession au pouvoir, et ce, à la demande de la CDAO. Une intervention militaire semble plus que probable si la situation n'évolue pas. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Dans la journée du mercredi, la force d'intervention de la CDAO s'est dit prête à intervenir à Gambie si Yahya Jammeh ne quittait pas le pouvoir à minuit, temps universel. Ce délai expiré, les militaires étaient toujours dans l'attente d'une intervention imminente en Gambie, même si le chef d'état-major des armées gambiennes a assuré qu'il n'engagerait pas ses hommes dans un conflit armé. Face à cette situation délicate, les Gambiens continuent de trouver refuge par milliers au Sénégal. Sedina Abagay, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Selon les derniers chiffres des autorités sénégalaises, 26 000 personnes ont déjà traversé la frontière entre la Gambie et le Sénégal, et ce, entre le 1er et le 16 janvier. Les équipes du HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, parlent, elles, d'un flux ininterrompu. On écoute Hélène Co, porte-parole du HCR à Dakar, au micro de Tatiana Mosso.
La plupart des gens qui passent, en fait, ce sont des enfants. 75% à 80% sont des enfants accompagnés par des femmes. Ça veut dire que les parents, les familles qui habitent en Gambie ont pensé avant tout à mettre leurs enfants à l'abri au Sénégal. Ces personnes qui arrivent, ces enfants qui arrivent, restent principalement chez des membres de leur famille, du côté sénégalais, ou dans des familles hôtes. Et c'est vrai que l'une des priorités du gouvernement sénégalais comme des agences humanitaires, ça va aussi d'être sûr que ces familles puissent avoir suffisamment de ressources pour aider les nouvelles arrivées.
Est-ce que ces réfugiés sont uniquement des Gambiens ?
Ce sont des flux mixtes, ce sont des personnes de différentes nationalités, différents profils qui arrivent. Il y a des Gambiens, il y a des Sénégalais, il y a des gens qui ont la double nationalité sénégalaise et gambienne. Les équipes du HCR rapportent aussi qu'il y a des Ghanéens, des Libériens, des Guinéens, des Mauritaniens qui partent la Gambie pour temporairement au moins venir au Sénégal. Ce qu'il faut aussi noter quand même, c'est qu'il y a toujours eu de toute façon entre les deux pays un flux, un trafic transitoire normal, puisqu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a toujours eu forcément beaucoup d'échanges commerciaux ou de gens qui passaient pour aller voir des membres de leur famille.
Pour vos équipes, quelle est l'urgence lorsqu'ils accueillent ces réfugiés à la frontière ?
Les autorités sénégalaises sont présentes, bien sûr, sur le terrain, qui recensent en fait les gens qui arrivent, des chiffres au niveau de leurs besoins. Les gens qui arrivent sont en bon état de santé, ils viennent juste de quitter, ils arrivent soit en bus, soit avec leur propre voiture. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gros besoins immédiats. Mais par contre, c'est vrai qu'ils vont rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en restant dans des familles autres, il va forcément y avoir des besoins auxquels il va falloir répondre. Les autorités sénégalaises ont communiqué qu'elles étaient prêtes à assister rapidement jusqu'à 50 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 000 personnes qui vont passer, mais leur plan de contingence immédiat, c'est ça. Leur plan de contingence à plus long terme, c'est jusqu'à 100 000 personnes. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à distribuer très rapidement dans les jours qui viennent des denrées, notamment de l'huile, du sucre, puis aussi des couvertures, des draps, des nattes, donc de l'assistance de première nécessité pour aider les gens qui arrivent.
Hélène Co, porte-parole du HCR à Dakar, au Sénégal.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, 19 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré, qui avait projeté de libérer des collègues emprisonnés après le putsch raté de septembre 2015, ont été condamnés mercredi à Ouagadougou à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison ferme. Le caporal Madi Redraogo, cerveau présumé du projet, et son complice, le sergent Mahamadi Zalé, ont été condamnés à 15 ans de détention. Un civil, Cheikh Alassane Ouedraogo dit Ladji, imam présenté comme le marabout du groupe, a également écopé de 15 ans de prison, ce qui porte à 20 le nombre de condamnations. 29 personnes étaient dans le box des accusés, 27 membres du régiment de sécurité présidentielle et 2 civils. Mali, le groupe du djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, rallié Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI, a revendiqué mercredi l'attentat suicide qui a fait une cinquantaine de morts parmi les combattants du groupe armé malien signataire de l'accord de paix. Le groupe de Mokhtar Belmokhtar identifie l'auteur de l'attaque comme Abdelhadi Al-Foulani, indiquant son appartenance à l'ethnie Peul dans un communiqué diffusé par l'agence mauritanienne Al-Akhbar et SAIT, Centre américain de surveillance des sites djihadistes. Pour sa part, le gouvernement malien a affirmé que l'attentat avait été perpétré par plusieurs personnes, faisant état de 5 kamikazes. Burundi, des membres des Imbonera Kurure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, ont brutalement tué, torturé ou tabassé des dizaines de personnes dans tout le pays ces derniers mois. C'est ce qu'a dénoncé ce jeudi Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York. Les Imbonera Kure, que l'ONU qualifie de miliciens, jouissent d'une impunité quasi totale. Le gouvernement richien a les sanctionner. C'est ce que dit l'ONG dans un rapport publié aujourd'hui. Les Imbonera Kure avaient déjà été accusés par le passé de se livrer à de tels exactions. Le Kenya vient de se doter d'une nouvelle commission électorale en remplacement de la précédente jugée partisane par l'opposition. La fièvre électorale a gagné le pays à moins de 7 mois d'élections générales qui s'annoncent tendues, Jacques Aristide.
Le président Uhuru Kenyatta, candidat à sa réélection le 8 août prochain, a formellement désigné les 7 membres de la nouvelle commission électorale. Un avocat de formation originaire de l'ouest du pays, Wafula Wanioni Chebukati, présidera la nouvelle équipe et sera secondé par 6 commissaires, 3 femmes et 3 hommes. La précédente commission avait démissionné en octobre 2015 sous la pression de l'opposition qui, lors de manifestations, avait dénoncé le caractère partisan de cette commission. Cette même équipe sortante avait supervisé l'élection présidentielle de mars 2013, entachée par la défaillance du système biométrique d'enregistrement des électeurs, ce qui avait conduit l'opposition à douter de la capacité de la commission à organiser des élections crédibles. Les scandales de corruption ont fait le reste.
Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon. Place ce jeudi au match du groupe B à Franceville. À 16h, duel du Maghreb, Tunisie-Algérie. Et puis à 19h, temps universel, Sénégal face au Zimbabwe. Hier, dans le groupe A, au stade de l'Amitié à Libreville, les Lions indomptables du Cameroun ont défait une équipe héroïque de Guinée-Bissau 2-1. Le point avec Timothée Dangmaï, notre envoyé spécial à la CAN.
Gabon-Burkina Faso, le match de la rédemption pour les Panthères gabonaises après leur décevant match nul contre la Guinée-Bissau. C'est pourtant les Burkinabés qui ouvrent la marque en première période. Entré en remplacement de Jonathan Pitroapa blessé, Préjus Nakulma a faussé compagnie au défenseur gabonais avant de battre le gardien Didier Ovono Eban. Encouragés par leur public, les Panthères gabonaises ont multiplié les actions offensives et sur une contre-attaque, Pierre-Emerick Aubameyang se fait faucher dans la surface de réparation par le gardien burkinabé Kwaku Hervé Kofi. Il obtient un pénalty qu'il transforme de manière magistrale. Un pénalty tout à fait justifié a tenu à souligner le coach burkinabé Paulo Duarte lors de la conférence d'après-match. Son homologue gabonais Antonio Camacho a noté de son côté que les chances de qualification restent les mêmes pour les deux équipes en dernier match du groupe D et que les blessés ne constituent pas une excuse. Timothée Don-